dans le document, on annonce textuellement ceci, qu'on augmentera, et pas rien qu'un peu, hein, les fonds pour la propagande contre le régime de Fidel Castro, le régime, comme on dit à Washington, sont passés de 7 à 36 millions de dollars avec la publication de ce document. Mais on dit là-dedans qu'on augmentera, avec ces fonds, l'appui aux ONG dans certains pays tiers qui se consacrent à décourager les voyages de tourisme à Cuba. Je crois que c'est une bourde, hein? Parce que des ONG dans des tiers pays qui se consacrent à détruire l'image touristique de Cuba, à mon avis, il n'y en a qu'une. C'est Reporters sans frontières qui marche à fond là-dedans depuis déjà quelques années et qui répond en menant ses campagnes à une orientation qui vient tout droit de Miami, encore une fois. À Miami, Robert Ménard est branché sur Nancy Pérez Crespo. Nancy Pérez Crespo, c'est une dame qui a fait fortune dans les dernières années en créant des réseaux, des agences de presse cubaines. Des agences de presse cubaines qui, dans la plupart des cas, se limitent à un journaliste par région. On crée l'agence de presse de Ciego de Ávila. On trouve un type là-bas qui va servir d'informateur. Et l'agence, dans les cas les plus de plus grande prospérité, ces agences se sont élargies à trois journalistes. Généralement, le cousin du premier et sa belle-mère. Ça s'arrête. Ces agences de presse, cependant, permettent à Nancy Pérez Crespo de réclamer, d'obtenir de la USA, de la United States Agency for International Development, des millions de dollars qui généralement ne semblent à peu près pas aux destinataires, aux bénéficiaires prévus par cette agence, et restent bien davantage à Miami dans les poches de ceux qui vivent grassement depuis au-delà de 40 ans de tous ces procédés. Nancy Pérez Crespo, il y a deux ans, annonçait dans le Nuevo Herald qu'elle menait une campagne contre le tourisme à Cuba. Elle annonçait qu'on distribuerait à différents endroits des pamphlets dans lesquels on montrait de beaux paysages cubains et dans lesquels on annoncerait qu'on publierait une sorte de carte géographique des prisons à Cuba, des centres de détention où prétendument se trouvent des dissidents. Nancy Pérez Crespo ajoutait dans un texte publié dans El Nuevo Herald que son initiative allait être poursuivie en France par le groupe Reporters sans frontières, qui n'avait jusque-là rien fait sur le sujet. Quelques semaines plus tard, on entendait dire que Reporters sans frontières se livrerait à une campagne de dénigrement de Cuba, une campagne de dénonciation du tourisme à Cuba, dont, selon lui, où sévit une dictature qui vit de ce tourisme. Cette façon dont Nancy Pérez Crespo a annoncé ses activités et passé la balle à Robert Ménard, on voit encore là comment Ménard défend des initiatives de Miami pour ensuite répéter des opérations en Europe, sur les territoires européens. Ménard est extrêmement actif en France. Il jouit évidemment de toute la bonne volonté des médias d'information, dont les revenus dépendent de Publicis, qui est un des commanditaires principaux, sinon le principal, de Reporters sans frontières. On peut facilement imaginer que les rédacteurs en chef de Paris, lorsque Publicis téléphone pour dire qu'il faudrait donner une certaine attention à telle campagne de Robert Ménard, ne raccrochent pas au nez de leur interlocuteur. Beaucoup de médias français dépendent des sommes d'argent énormes que Publicis peut injecté dans leurs publications, mais il y a plus encore, c'est que à Paris, Le Monde et Libération confient la vente de leur publicité à des filiales de Publicis. C'est la plus belle ça se passerait dans le secteur public, qu'on crierait à la corruption. Celui qui achète est également le vendeur. On imagine qu'en cours de route, quelqu'un bénéficie de ce procédé. Alors, appuyé par Publicis sur le marché français, c'est bien évident qu'on reçoit toute la publicité qu'on veut et que c'est bien évident qu'un bouquin dénonçant Robert Ménard et le qualifiant d'agent de la CIA a strictement aucune chance d'avoir ne serait-ce qu'un entrefilet dans une des grandes publications françaises. Mais il fallait néanmoins faire ce bouquin, il fallait néanmoins dénoncer Robert Ménard, faire connaître ces informations que personne dans la presse française n'oserait jamais publier, même en partie, et c'est ce qu'on a tenté de faire en constituant ce petit dossier qui pourrait être élargi au Venezuela, qui pourrait être élargi, quelqu'un me citait tantôt l'exemple du Laos, qui pourrait être élargi à plusieurs pays maghrébins. À notre stand de la fête de l'humanité, beaucoup de gens sont venus nous commenter, nous donner leurs commentaires sur le personnage de Robert Ménard. Beaucoup de gens clairvoyants, sans méfie, nous ont dit, il y a longtemps que Robert Ménard m'inquiète par ses propos. Je me posais justement des questions à son sujet. La désinformation sur Cuba, en France et dans l'Europe francophone, est énorme. Ce qui se publie sur la plus grande des Antilles, un pays où je vis, où Marie-Dominique vit et où on vit avec bonheur, incroyables. Ce qui est plus drôle, c'est que vraiment, même dans le milieu journalistique, beaucoup de journalistes sont passés au stand et nous ont carrément laissé entendre qu'ils craignaient de toucher ce genre de sujet dans leur publication, que c'était à toute fin pratique impossible, parce que Ménard est trop puissant. Et nous le disait carrément, plus fort encore, à La Havane, avant le départ, nous avons rencontré le directeur de l'AFP, le directeur du bureau de l'AFP pour Cuba, qui, dès que nous lui avons signalé le sujet du dossier, nous a dit, mais Ménard, vous savez, il emmerde. Ménard, ras-le-bol, parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ménard est partout, s'introduit partout, mais reçoit le feu vert pour la diffusion de ses campagnes de désinformation, de personnages si puissants que personne n'ose l'arrêter. C'est ainsi que le livre a été édité au Canada et que l'éditeur canadien, possédant son propre réseau de distribution à partir de Paris pour l'Europe francophone, nous espérons que nous arriverons à pénétrer, à créer une brèche dans ce mur que Ménard a su mettre en place en Europe. Mais le livre est évidemment publié en français, Ménard étant francophone, son poste de travail principal étant Paris, bien que maintenant il dispose de bureaux tant à New York, à Miami et dans d'autres grandes capitales, ce qui est assez incroyable pour quelqu'un, encore une fois, qui vend des cartes postales à 1 euro et des albums photos. Je ne crois pas qu'on puisse arriver ainsi à monter l'organisation dont il dispose, à faire les déplacements qu'il fait, à être sur tous les fronts, à organiser des événements contre Cuba, notamment comme ceux qu'il a organisés ici à Bruxelles, au Parlement européen. Il y a un point intéressant qu'on me signalait hier soir, un diplomate cubain qui était dans une autre réunion que nous avons tenue hier soir à Anvers, me disait que lorsque, c'est le 18 mars, Ménard avait donné son spectacle anti-cubain ici devant des députés, quelques députés européens, heureusement fort peu, se trouvait dans la salle Frank Carlson, qui est le directeur de Freedom House, une organisation très liée à la CIA depuis 40 ans, qui a été ouvertement financée par la CIA, qui a mené beaucoup de campagnes contre Cuba, qui a introduit à Cuba toutes sortes de personnages dans toutes sortes de circonstances. On se souvient des représentants, des parlementaires tchèques qui venaient établir des contacts auprès de journalistes indépendants. Et Ménard était ici avec, dans son entourage, Frank Carlson, qu'il, avec lequel il nie travailler. Et ce qui est plus fou, c'est que Robert Ménard, il y a, c'est d'ailleurs un chapitre de ce bouquin, nous reproduisons une entrevue, une excellente entrevue réalisée par un chercheur de la Sorbonne, Salim Lamrani, qui pose à Ménard toute une série de questions sur ses activités, mais également qui lui demande carrément à un certain moment s'il a des liens avec la CIA. Et Ménard s'emporte. Ménard et lui rappelle qu'il a eu des contacts avec Freedom House en question et qu'il avait défendu les gens de Freedom House. Mais lui, Ménard répond, vous comprenez, je les défends parce que ce sont des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Mais parce que je ne suis pas d'accord avec eux, je n'accepte pas qu'on dise d'eux des choses infamantes. Il dit, c'est infamant de dire ça. Qu'est-ce qui vous permet de dire un truc pareil? Monsieur Schuchman, qui est le président de la Freedom House, il le connaît bien, paraît-il, est un homme respectable, qui est attaché aux droits de l'homme. Freedom House, ce sont des gens qui se battent depuis des années pour la liberté dans le monde entier. Hein, faut vraiment le faire d'affirmer que cette organisation, bien caractérisée comme étant liée à CIA, se bat depuis des années pour la liberté dans le monde entier. Il ajoute, lisez leur dernier rapport, vous avez lu leur dernier rapport, vous voulez que je vous donne leur dernier rapport, mais il termine en disant, vous, faites attention à ce que vous dites. Et dans une autre entrevue accordée à une autre chercheur, Robert Ménard ira jusqu'à dire, qui lui demande, un autre chercheur qui lui demande s'il a des liens avec la CIA, qui lui demande également, Robert Ménard ira jusqu'à dire, on m'a fait des offres, mais je les ai refusées. Je présume que si on lui a fait des offres, c'est qu'il a eu contact avec la CIA. Qu'il les ait refusées, j'en doute beaucoup, parce que tout dans son profil démontre exactement l'inverse. Est-ce que j'oublie les points, Marie-Lé?
Non, je voulais juste ajouter que ce que disait Jean-Guy au sujet de la brèche qu'il faut qu'on arrive à ouvrir dans les informations sur Cuba, et les raisons qui nous ont poussé à réunir les informations qu'il avait lui données sur Grandma International, à réinterviewer Nestor Vaguerre, à rassembler un petit peu tout ça pour faire une sorte de petit manuel. Ça me semble très important aujourd'hui parce que, à la suite du fameux rapport présenté par Bush le 6 mai, il y a de nouveau une désinformation. C'est-à-dire, on a parlé des mesures qui ont été prises contre les Cubains, qui sont évidemment des mesures insupportables, iniques, injustes, c'est-à-dire obliger des gens à n'aller voir leur famille que tous les 3 ans, obliger les gens à n'aller que 15 jours, les empêcher d'envoyer de l'argent à leur famille. C'est évident, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Mais c'est la seule chose, c'est le seul aspect dont il a été question dans la grande presse. De la même manière qu'au moment de la loi Helms-Burton, le seul aspect dont il avait été question, c'était le danger qu'elle pouvait représenter pour des entreprises européennes, en particulier bon, en France, des entreprises françaises. Et c'était terminé. Tout l'aspect qui concernait Cuba et la politique intérieure, disons, de Cuba, était passé sous le boisseau et ça se reproduit de nouveau. Et le rapport, pour ceux qui lisent l'anglais, je vous conseille vraiment d'aller sur le site du département d'État. Même, enfin, il n'y a pas besoin d'être très très doué en anglais, parce que c'est pas un anglais, c'est pas Shakespeare, quoi. Et d'aller consulter le rapport dans le texte. C'est un rapport qui fait effectivement 450 pages. Le premier chapitre s'appelle « Hâter la chute du régime cubain ». Donc c'est le renforcement effectivement des mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant. Et après, il y a 5 chapitres qui sont consacrés à la réorganisation de Cuba une fois que le régime cubain sera tombé. Et ça va d'absurdité comme on vaccinera les enfants, qui fera tout le monde, enfin dès que quelqu'un connaît un petit peu Cuba, les enfants sont tous vaccinés contre 13 maladies, un des points ça sera vacciner les enfants, qui sont des absurdités et qui sont relativement faciles à contrer, à des choses extrêmement graves, comme la réorganisation de l'enseignement, la réorganisation de la recherche, la réorganisation des valeurs. Il faudra apprendre aux Cubains, qui depuis 40 ans, les pauvres ne savent non plus de valeurs, il faudra apprendre aux Cubains les valeurs de la liberté et du libre marché. C'est dit toutes les fois, c'est les maîtres mots, la liberté de commerce et la liberté de penser, évidemment, vont de pair. Et tout cela avec un gouverneur de Cuba qui va être nommé, qui doit être nommé, il est toujours pas nommé parce qu'il doit être en train de se battre pour savoir qui va être le gouverneur. Il y a 50 de gens sur les rangs, donc il va y avoir un gouverneur nommé, avec des conseillers états-uniens dans tous les ministères, et avec une liste, enfin, rien qu'à voir le rapport, il y a les points, alors vous avez l'explication dans chaque chapitre, par exemple la santé, les services, la santé, l'éducation, la protection sociale. Vous avez ce qu'ils vont faire, après il y a le gouvernement US fera ci, le gouvernement US fera ça, et vous avez une page et demie qui commence par le gouvernement US. Le gouvernement US. Et c'est vrai, sur la réforme de la Constitution, c'est vrai sur les élections, et un des premiers points, par exemple, qu'il y a sur les élections, c'est réviser les listes électorales. Ça laisse rêveur, c'est un peu ce que signalent les gens dit. À Cuba, vous êtes inscrit sur les listes électorales automatiquement quand vous arrivez à l'âge de 16 ans. Les listes électorales sont publiques un mois avant les élections. Si vous n'êtes pas sur les listes électorales, il suffit de dire, écoutez, vous savez bien, moi je vis ici, regardez, je ne suis pas sur les listes électorales, et vous êtes inscrit automatiquement. On ne peut pas inscrire deux fois quelqu'un sur les listes électorales parce qu'elles sont faites par pâté de maison et tout le monde sait bien que s'il y a quelqu'un qui a inscrit deux fois, ça va se voir. On ne peut pas inscrire les morts parce que tout le monde dans le quartier sait qui est vivant et qui est mort. Eh bien, un des premiers points qui est prévu pour le fameux nouveau gouvernement de transition, c'est la réforme des listes électorales. Et quand on sait comment les listes électorales fonctionnent aux États-Unis, on est en salaire rêveur. Justement, un des points qui est supprimé, c'est cette atteinte atroce aux libertés qui est l'inscription automatique sur les listes électorales quand vous arrivez à votre 16e anniversaire. Quand même, c'est vrai que c'est une atteinte aux libertés très grande. On a le droit d'être ou pas sur les listes électorales. Et si tout est comme ça, il y en a 450 pages comme ça. Et quand on lit ça, eh bien, la seule conclusion possible, c'est qu'il faut une intervention américaine pour arriver à l'appliquer. C'est la seule conclusion possible. C'est-à-dire, Fidel peut mourir 80 fois, s'il n'y a pas d'intervention américaine, c'est inapplicable, parce que c'est la réorganisation totale de la société cubaine, sous l'égide des États-Unis, directement, avec les conseils des Cubains de Miami, des exilés qui rentreront aider, avec des choses comme la suppression des retraites. Dit comme ça, les gens, les retraites sont trop élevées à Cuba, donc on supprimera les retraites, on demandera aux églises d'appuyer, enfin, des choses qui sont tout à fait aberrantes. On se rend compte que sur le plan des idées et sur le plan de l'exécution, il n'y a qu'une solution, c'est l'intervention. Donc, c'est un point en plus à ajouter. Tous ces gens auxquels Ménard est lié à Miami, c'est justement les gens qui manifestaient, la seule manifestation qui a eu lieu en faveur de la guerre en Irak dans le monde, ça a quand même été la manifestation de Miami, dont la banderole de tête était « L'Irak aujourd'hui, Cuba demain ». Donc, tout ça se mélange, je crois que ça va beaucoup plus loin que le simple débat avec Reporters sans frontières. Ça va plus loin que les fraudes, que les magouilles et même que le terrorisme de Miami. Réellement, c'est un point clé aujourd'hui de la défense de Cuba, je crois. Et comme l'ont signalé beaucoup de gens à la fête de l'humanité, je pense aussi le sentiment des amis de Cuba en Belgique, en défendant Cuba, quelque part, on défend le reste du monde. Et donc, c'est pour ça que c'est important.
Mais pour justifier une intervention militaire à Cuba, les Américains ont absolument besoin de détruire l'image de Cuba dans le monde, et notamment en Europe. Et le rôle de Robert Ménard, c'est précisément cela. Robert Ménard ne fait pas dans le but ne salit pas l'image de Cuba dans le but de soutenir les droits de l'homme ou de libérer. Tout ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, quand même, c'est pas pour quelques détenus ou pour quelques exécutions qu'on s'excite. George Bush a quand même fait sa part en matière d'exécution au Texas, et le pays possède quelque part 2 millions, autour de 2 millions de détenus dans ses prisons. Robert Ménard prépare une intervention militaire sur Cuba. Robert Ménard prépare le terrain pour l'annexion de l'île de Cuba, un vieux rêve qui a déjà bien au-delà d'un siècle d'existence. Et c'est là où il faut frapper Ménard, c'est là où il faut faire des brèches dans son organisation, c'est là où il faut que les Européens sachent que Ménard est une fripouille, que Robert Ménard n'est pas le grand défenseur des droits de l'homme qu'il prétend être, mais qu'il est en cheville avec des terroristes, avec des criminels, avec des gens qui circulent dans les rues de Miami libres et qui ont tué, dans certains cas, des dizaines de personnes. le cas de l'explosion de l'avion de Cubanade Aviation et le cas le plus flagrant, Orlando Bosch à Miami est une vedette. Orlando Bosch à Miami est invité à des émissions de télévision, défend ses thèses, défend sa thèse de la violence comme moyen de comme arme politique. Miami est de toute façon sans doute est-ce qu'on peut dire la poubelle de l'Amérique jusqu'à un certain point. On sait que sont réfugiés à Miami des tortionnaires de tout le continent, d'anciens dictateurs, d'anciens responsables politiques, responsables militaires, qui tôt ou tard, quand ça ne va plus dans leur coin, se réfugient dans ce paradis, dans ce sanctuaire du terroriste, et c'est généralement là où ils ont pris la précaution de déposer leurs économies avant d'avoir à fuir. Miami est un sacré drôle de terrain. Et cette association de Ménard avec ce milieu est vraiment une chose dont les Européens doivent être informés. Ce petit bouquin, on espère qu'il va pénétrer le marché du livre européen, qu'on le retrouvera en vitrine, et surtout qu'on connaîtra son contenu, que ce qu'on y raconte fera son tour d'Europe et que ces informations pénétreront les salles de rédaction et qu'au moins les journalistes, en faisant l'éloge de Ménard, auront mauvaise conscience, qui serait mieux tout de même. Parce qu'on a vu arriver au stand de l'humeur des gens qui, de toute bonne foi, se scandalisaient qu'on puisse écrire quelque chose au sujet de Robert Ménard. On a vu des gens tellement désinformés sur Cuba qu'une personne nous a demandé, et c'est vrai, le Parti communiste, il est toléré à Cuba? Croyant qu'il s'agit d'une sorte de dictature fasciste dirigée par Fidel Castro et où aucun groupe politique n'est toléré. Ça fait rire, mais c'est en même temps tragique. Ça démontre bien que les Français et les Européens francophones reçoivent constamment de l'information faussée, de l'information biaisée, de l'information carrément mensongère sur une révolution qui, bon Dieu, est capable d'envoyer des médecins aux quatre coins du monde, qui est capable de nourrir son peuple, de lui donner des soins de santé, de l'éduquer, d'une révolution dont Marie-Dominique et moi sommes particulièrement fiers pour y vivre et voir quotidiennement ses apports à ce pays absolument merveilleux, certainement pour son climat, mais également pour ces gens, pour plusieurs d'entre vous peut-être ont voyagé à Cuba et se sont aperçus des caractéristiques du pays et se sont enthousiasmés pour cette révolution. Les gens qui ont voyagé à Cuba ont une toute autre perspective. Beaucoup de gens sont venus nous voir au stand de l'humanité. En faisant des critiques à propos de la révolution cubaine, et ma première question c'était de leur demander, est-ce que vous avez vu Cuba? Avez-vous déjà séjourné à Cuba? Vous m'en parlez abondamment, mais êtes-vous déjà allé? Mais allez-y, parce que la meilleure façon de faire tomber des préjugés, c'est encore de visiter ce pays. Voilà pour ma présentation. On aurait pu rajouter certains autres éléments. Il y en a plein dans le bouquin, notamment, je pense tout d'un coup, au caméraman espagnol José Cusso, tué dans le bombardement de l'hôtel Palestina à Bagdad. On se rappellera que José Cusso et un collègue ukrainien sont morts alors qu'ils se trouvaient dans leur chambre, dans l'hôtel Palestina, et que un tank américain a ouvert le feu sur cet hôtel où résidaient un grand nombre de journalistes étrangers. Robert Ménard a dénoncé cela du bout des lèvres, et puis au bout de plusieurs mois, il a présenté un rapport dans lequel on dénonçait les actes posés par les militaires qui ont ouvert le feu sur l'hôtel, mais où à la fois on exonérait l'armée américaine, l'administration américaine de toute responsabilité. Immédiatement, la famille de José Cousseau, qui a d'ailleurs ouvert un site sur Internet à ce sujet, a dénoncé le rapport Ménard et a accusé Ménard de complicité avec les autorités américaines, avec l'administration américaine. Ça a été très peu diffusé dans la presse. Ça a été pratiquement pas diffusé dans la presse. Ménard, on a ensuite, dans les semaines suivantes, découvert que l'auteur du texte, Jean-Paul Marie, journaliste au Nouvel Observateur, était également un grand copain, un grand pote de l'officier responsable, du principal officier américain responsable de l'opération qui avait été menée contre l'hôtel Palestina et qui n'était évidemment pas condamné dans le document. Je pense que c'est un exemple du comportement de Ménard, comme on peut également croire que les manifestations qu'il convoque, qu'il a convoquées en France pour dénoncer le terrorisme des personnes qui ont enlevé deux journalistes français, est bien plus destinée à provoquer la colère des Français contre ces Arabes, contre ces terroristes irakiens qui enlèvent nos journalistes, qu'à défendre les journalistes eux-mêmes. Je pense que sa campagne, dans ce cas-là encore, est piégée, que sa campagne, dans ce cas-là, loin d'aider les deux journalistes disparus et leur chauffeur, est bien plus destinée à manipuler l'opinion publique, une fois plus, à la manière de Robert Ménard. Certains journalistes qui nous ont visités à la fête de l'humanité ont été jusqu'à nous proposer de créer une organisation parallèle, une autre organisation réunissant des journalistes qui s'appellerait Reporters sans Ménard. Et voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez quelques préoccupations sur lesquelles on pourrait vous apporter des commentaires, mais enfin, pour ce qui est du bouquin, peut-être faire un tour du sujet. Ah, non, monsieur. Ah oui, monsieur, pardon. Excusez-moi.
Non, mais je voulais vous demandez donc, est-ce que l'humanité va... est-ce que l'humanité va parler de votre...
J'ai remis en main propre au directeur de l'humanité un exemplaire du bouquin, en main propre, avec une dédicace, et à un de ses adjoints aussi. J'ai pas eu de commentaire, j'ai bien hâte de voir si on aura droit, ne serait-ce qu'à une mention.
Il parle pas de Cuba.
Hein?
L'humain ne parle pas de Cuba.
On me raconte que les dernières...
ils n'ont pas parlé de Cuba.
C'est ça. On espère avoir quelques lignes dans le monde diplomatique.
J'ai une question sur parce que bon, vous dites qu'il est agent de la CIA, mais c'est pas tout à fait aussi évident que l'histoire de la base d'entrée. Je veux dire, c'est quand même important de distinguer entre le fait de dénoncer ce qu'il dit et puis la question de savoir s'il est payé par la CIA. Par exemple, il pourrait être payé par les services français, mais après tout, il est français. Quelle est la position de Ménard sur les attaques contre la France, en particulier sur les campagnes sur la France antisémite, qui se sont développées ces derniers temps et qui, à mon avis, sont une arme idéologique que les Américains...
Je ne peux pas vous dire que je vous mentirais si je commentais ce sujet. Je ne suis pas documenté réellement sur ce point précis, non, c'est pas...
sur l'absence de participation française, et surtout les conflits entre les Américains et les Français, parce que là, c'est une façon de voir s'il y a un agent...
Oui, bien sûr, mais également, il y a le cas de Cousa, de José Cousseau, ici, sur la guerre en Irak, qui est particulièrement intéressant. Mais Ménard doit dénoncer les États-Unis de temps à autre.
Ah non, je ne l'ai jamais entendu.
Non, mais il faut pas faire parfois fait des commentaires, parfois demandant tel ou tel truc aux États-Unis. Mais il faut qu'il le fasse, à mon avis. Il ne peut quand même pas ne jamais parler des États-Unis. Mais la grosse différence entre les États-Unis et Cuba, c'est que Cuba, c'est une petite île qui souffre de ce genre de dénonciation, alors que les États-Unis n'en ont rien à foutre. Les États-Unis un commentaire de Robert Ménard, ça ne rapporte strictement rien. Ça n'a vraiment aucune importance pour eux. Et donc, il ne faudrait quand même pas se surprendre que Ménard puisse avoir, à l'occasion, un petit mot au sujet des États-Unis. Mais chose certaine, c'est que son site web est presque consacré à Cuba. Son site web, la première page est là-dessus, et il revient constamment sur le sujet. C'est obsessif de sa part. C'est inexplicable qu'il donne une telle importance à Cuba dans le domaine de la liberté de presse dans le monde. Il y a des dizaines, sinon des centaines de pays qui pourraient faire l'objet de critiques infiniment plus dures que celles qui... c'est-à-dire aussi dures, et sinon plus, que celles qui portent sur lui. Cuba, vraiment, l'exercice de la profession journaliste à Cuba est absolument pas dangereuse, premièrement. J'ai jamais entendu parler du moindre incident. Alors qu'on sait que dans les pays voisins, comme le Mexique, par exemple, l'Amérique centrale, en général, la Colombie, ben, la meilleure façon de finir ses jours rapidement, c'est encore de s'en prendre aux autorités. Il y a un truc intéressant, c'est que quand Luis Posada Carriles et trois autres terroristes ont été libérés récemment par la presse, grâce à l'argent de Miami, graciés par la présidente Mireya Moscoso, la présidente a annoncé en même temps la libération, le pardon d'au-delà d'une centaine de personnes. Évidemment, il fallait noyer le poisson. Les noms de Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Lemón et Guillermo Novo Sampol, qui sont tous des terroristes de grand calibre. Pedro Lemón est un assassin de première catégorie, un tueur qui a tué, vérifiés à New York, le diplomate cubain Félix Garcia, en plein Manhattan, en pleine rue, à la mitraillette. Pedro Raymond a tué un Cubain américain qui plaidait pour la normalisation des relations avec les États-Unis, entre Cuba et les États-Unis, Eladio Negrín, devant son fils de 12 ans. Et il était intéressant, il y a quelques jours, quand ces gens-là ont été libérés, j'allais dire que, d'une part, que dans cette liste d'au-delà d'une centaine de personnes à qui on accordait la grâce, il y avait 80 journalistes qui faisaient l'objet de poursuites de la part de l'État panaméen. Jamais Robert Ménard n'a mené de campagne contre Panama, le pays où on poursuit le plus de journalistes au monde. De façon évidente, 80, ça me semble un chiffre énorme. Jamais Robert Ménard n'a lancé de campagne contre le tourisme à Panama ou lancé de campagne de dénonciation du régime panaméen. Mais une chose fort intéressante, c'est que quand Pedro Raymond est libéré, dans la première page du Miami Herald, on publie en couleur une grande photo montrant Pedro Raymond à son retour à l'aéroport de Opa Loca, où venait de l'amener un jet privé qui était allé chercher à Panama, qui était passé par le Honduras pour déposer Luis Posada Carriles, qui entre-temps est disparu avec la complicité du gouvernement hondurien, et qui avait suivi sa route sur Miami. En première page du Miami Herald, on voyait la photo de Pedro Raymond, l'air manifestement ému, embrassant un type qu'on identifiait comme Reynold Rodriguez. Un Rodriguez de plus, vous me direz. Reynold Rodriguez, ce que ne disait pas Miami Herald, ce que ne disait pas une publication bénie par Reporters sans frontières, Reynold Rodriguez a été, dans les années 60, dans les années 70, le chef de la coordination des organisations révolutionnaires unies de Puerto Rico, responsable de grand nombre d'attentats commis contre des Cubains résidents à Puerto Rico et ayant des sympathies envers la révolution cubaine, notamment Carlos Muñiz Varela, qui a été tué au revolver dans sa bagnole sur une route de San Juan, Puerto Rico, exécuté par un tueur à gages qu'on n'a jamais retrouvé. Et ce tueur à gages, les militants de gauche de Puerto Rico ont toujours pensé qu'il s'agissait de Pedro Raymond, mais n'avaient jamais réussi à établir le lien entre le chef du gourou de Puerto Rico et Pedro Raymond. soudainement, avec la libération de Pedro Raymond, qu'est-ce qu'on voit dans la première page du Miami Herald et sans commentaire du journal, Pedro Raymond et Reynold Rodriguez s'embrassant avec effusion. Ben pour moi, c'est une autre tâche sur la vache. Ça vient encore une fois faire le portrait d'une presse qui est complice des milieux anti-castristes de Miami et qui fait l'éloge de Reporters sans frontières et de Robert Ménard. Le Miami Herald étant la maison mère qui propriétaire du Nuevo Herald, sa version néocoloniale en espagnol. Une autre anecdote.
Luis Posada Carrillo, vous avez
oublié. Luis
Posada Carrillo?
Oui.
Oui. De quatre graciers, lui, c'est le principal.
Ah ben oui. Non, j'ai couvert le procès de Luis Posada Carrillo à Panama. À Panama, là, enfin, jusqu'à sa conclusion. Et c'est l'archétype du terroriste de carrière. Ces gens-là ont vécu, Posada Carrillo et ses trois complices dans l'attentat raté de Panama, un attentat qui aurait sans doute fait des milliers de victimes. Ces gens-là se baladaient avec une trentaine de kilos de C4, un explosif militaire qui s'apprêtait à mettre dans un amphithéâtre où allaient prendre place des milliers de personnes pour entendre Fidel Castro s'adresser à eux. Luis Posada Carrillo a été arrêté sur dénonciation des Cubains. On les a trouvés en possession des explosifs, en possession de notes manuscrites se référant au projet d'attentat. Et on a réussi à enlever peu à peu les chefs d'accusation contre eux pour finalement les condamner pour constituer une menace à la sécurité publique, leur filer 7 et 8 ans de prison et finalement leur accorder la grâce au moment où Mireya Moscoso quittait son poste le 1er septembre. Mais Luis Posada Carrillo et les trois autres ont vécu toute leur vie du terrorisme, ont vécu toute leur vie de l'anticastrisme, ont fait fortune là-dessus. On connaît un seul emploi à un d'entre eux, c'est Pedro Raymond qui aurait travaillé comme vendeur de voitures d'occasion quelques mois dans sa vie. Sinon, ces gens-là ont des propriétés, ces gens-là vivent de façon entourés avec un certain niveau économique. Et ont été nécessairement financés par les milieux qui encouragent le terrorisme contre Cuba. Guillermo Novosampol, qui a été l'auteur de l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien ministre chilien des Affaires étrangères, Orlando Letelier, et de sa collaboratrice, Ronnie Moffitt, quand Novosampol et son frère Ignacio sont finalement libérés de prison, la Fondation nationale cubano-américaine les embauche comme responsables à leurs quartiers généraux et ce sont eux qui se chargent des activités paramilitaires de l'organisation. Même chose pour Gaspar Jiménez qui, lui, assassine un diplomate cubain au Yucatan, à Mérida. Est arrêté, est mis en prison, s'évade, part pour les États-Unis, et les États-Unis mettront comme 3 ou 4 ans avant de le trouver et de le livrer de nouveau aux autorités mexicaines. On le remet en prison, il s'évade de nouveau avec un trafiquant colombien de cocaïne, réapparaît à Miami, et on l'a laissé depuis ce temps-là miner ses affaires sans aucune préoccupation. Tous ces gens-là qui entouraient Posada Carrillo à Panama sont des assassins professionnels et des assassins professionnels qui ont l'appui de grosses fortunes de Miami. On a raconté que l'avocat qui les défendait à Panama était Rogelio Cruz, l'ancien procureur de la République nommé au moment de l'invasion américaine et qui a été chassé de son poste peu après à cause de ses relations avec les cartels de la drogue de Colombie. Et quand Posada Carrillo et ses complices sont arrêtés à Panama, on va chercher Rogelio Cruz comme avocat. Et c'est lui qui a négocié avec Mireya Moscoso la grâce qui leur a été finalement donnée quelques 72 heures avant que la Moscoso disparaisse pour sa résidence de Miami. Parce que, évidemment, elle a non seulement bénéficié des largesses de ces groupes-là de Miami, mais s'est également installée carrément à Miami, où elle a vécu de toute façon 10 ans à l'époque du gouvernement Noriega, du gouvernement panaméen de Noriega. On en a eu 2 ou 3 qui sont venus à la fête de Yuma.
Bonsoir, je voudrais vous inviter à tous à participer à la fête chez Pressel de chaque année depuis les plus 10 ans. On organise une activité en Belgique et qui se fait en coordination avec le gouvernement climat. Et cette année, ça commence à Pressel, c'est à la VUB, à l'Université Libre-Flamand, à l'Hôtel Pu, et ici il y a des invitations, les entrées. Si vous voulez bien, vous pouvez acheter à 10 euros seulement, comme ça vous ne payez pas. À l'entrée si vous êtes chômeur ou bien si vous êtes étudiant. Par contre, si vous êtes un homme honnête qui a du travail, vous pouvez payer 9 euros donc, à la caisse, vous pouvez passer pour les 3 euros supplémentaires. Et c'est important que vous aidez à faire connaître cette activité parce que c'est une activité.
Ici en Belgique en tout cas.